La Chartreuse de Parme, livre second. Par ses cris continuels, cette république nous empêcherait de jouir de la meilleure des monarchies. Chapitre 23. Chapitre 14. Pendant que Fabrice était à la chasse de l'amour dans un village voisin de Parme, le fiscal général Rassi, qui ne le savait pas si près de lui, continuait à traiter son affaire comme s'il eût été un libéral. Il feignit de ne pouvoir trouver, ou plutôt intimida les témoins à décharge. Et enfin, après un travail fort savant de près d'une année, et environ 2 mois après le dernier retour de Fabrice à Bologne, un certain vendredi, la marquise Raversi, ivre de joie, dit publiquement dans son salon que le lendemain, la sentence qui venait d'être rendue depuis 1 heure contre le petit Del Dongo serait présentée à la signature du prince et approuvée par lui. Quelques minutes plus tard, la duchesse sut ce propos de son ennemi. « Il faut que le comte soit bien mal servi par ses agents, » se dit-elle. Encore ce matin, il croyait que la sentence ne pouvait être rendue avant 8 jours. Peut-être ne serait-il pas fâché d'éloigner de Parme mon jeune grand vicaire. « Mais, » ajouta-t-elle en chantant, « nous le verrons revenir, et un jour, il sera notre archevêque. » La duchesse sonna. « Réunissez tous les domestiques dans la salle d'attente, » dit-elle à son valet de chambre, « même les cuisiniers. Allez prendre chez le commandant de la place le permis nécessaire pour avoir 4 chevaux de poste. Et enfin, qu'avant 1 demi-heure, ces chevaux soient attelés à mon landau. » Toutes les femmes de la maison furent occupées à faire des malles. La duchesse prit à la hâte un habit de voyage, le tout sans rien faire dire au comte. L'idée de se moquer un peu de lui la transportait de joie. « Mes amis, » dit-elle aux domestiques rassemblés, « j'apprends que mon pauvre neveu va être condamné par contumace pour avoir eu l'audace de défendre sa vie contre un furieux. C'était Giletti qui voulait le tuer. Chacun de vous a pu voir combien le caractère de Fabrice est doux et inoffensif. Justement indigné de cette injure atroce, je pars pour Florence. Je laisse à chacun de vous ses gages pendant 10 ans. Si vous êtes malheureux, écrivez-moi, et tant que j'aurai un sequin, il y aura quelque chose pour vous. » La duchesse pensait exactement ce qu'elle disait, et à ces derniers mots, les domestiques fondirent en larmes. Elle aussi avait les yeux humides. Elle ajouta d'une voix émue, « Priez Dieu pour moi et pour Monseigneur Fabrice Del Dongo, premier grand vicaire du diocèse, qui demain matin va être condamné aux galères, ou, ce qui serait moins bête, à la peine de mort. » Les larmes des domestiques redoublèrent, et peu à peu se changèrent en cris à peu près séditieux. La duchesse monta dans son carrosse et se fit conduire au palais du prince. Malgré l'heure indue, elle fit solliciter une audience par le général Fontana, aide de camp de service. Elle n'était point en grand habit de cour, ce qui jeta cette aide de camp dans une stupeur profonde. Quant au prince, il ne fut point surpris, et encore moins fâché de cette demande d'audience. « Nous allons voir des larmes répandues par de beaux yeux, » se dit-il en se frottant les mains. « Elle vient demander grâce. Enfin, cette fière beauté va s'humilier. » Elle était aussi trop insupportable avec ses petits airs d'indépendance. Ses yeux si parlants semblaient toujours me dire, à la moindre chose qui la choquait, « Naples et Milan seraient un séjour bien autrement aimable que votre petite ville de Parme. » À la vérité, je ne règne pas sur Naples ou sur Milan. Mais enfin, cette grande dame vient me demander quelque chose qui dépend de moi uniquement et qu'elle brûle d'obtenir. J'ai toujours pensé que l'arrivée de ce neveu m'en ferait tirer pied ou aile. » Pendant que le prince souriait à ses pensées et se livrait à toutes ses prévisions agréables, il se promenait dans son grand cabinet, à la porte duquel le général Fontana était resté debout et raide comme un soldat au port d'armes. Voyant les yeux brillants du prince et se rappelant l'habit de voyage de la duchesse, il crut à la dissolution de la monarchie. Son ébahissement n'eut plus de bornes quand il entendit le prince lui dire « Priez, madame la duchesse, d'attendre un petit quart d'heure. » Le général aide-de-camp fit son demi-tour comme un soldat à la parade. Le prince sourit encore. « Fontana n'est pas accoutumée, se dit-il, à voir attendre cette fière duchesse. » La figure étonnée avec laquelle il va lui parler du petit quart d'heure d'attente préparera le passage aux larmes touchantes que ce cabinet va voir répandre. Ce petit quart d'heure fut délicieux pour le prince. Il se promenait d'un pas ferme et égal. Il régnait. Il s'agit ici de ne rien dire qui ne soit parfaitement à sa place. Quels que soient mes sentiments envers la duchesse, il ne faut point oublier que c'est une des plus grandes dames de ma cour. Comment Louis XIV parlait-il aux princesses ses filles quand il avait lieu d'en être mécontent? Et ses yeux s'arrêtèrent sur le portrait du grand roi. Le plaisant de la chose, c'est que le prince ne songea point à se demander s'il ferait grâce à Fabrice et quelle serait cette grâce. Enfin, au bout de 20 minutes, le fidèle Fontana se présenta de nouveau à la porte, mais sans rien dire. « La duchesse Sanseverina peut entrer !» cria le prince d'un air théâtral. « Les larmes vont commencer !» se dit-il. Et, comme pour se préparer à un tel spectacle, il tira son mouchoir. Jamais la duchesse n'avait été aussi leste et aussi jolie. Elle n'avait pas 25 ans. En voyant son petit pas léger et rapide effleurer à peine les tapis, le pauvre aide-de-camp fut sur le point de perdre tout à fait la raison. « J'ai bien des pardons à demander à votre Altesse Sérénissime, » dit la duchesse de sa petite voix légère et gaie. « J'ai pris la liberté de me présenter devant elle avec un habit qui n'est pas précisément convenable, mais votre Altesse m'a tellement accoutumée à ses bontés que j'ai osé espérer qu'elle voudrait bien m'accorder encore cette grâce. » La duchesse parlait assez lentement afin de se donner le temps de jouir de la figure du prince. Elle était délicieuse à cause de l'étonnement profond et du reste de grands airs que la position de la tête et des bras accusait encore. Le prince était resté comme frappé par la foudre. De sa petite voix aigre et troublée, il s'écriait de temps à autre en articulant à peine « Comment ? Comment ?» La duchesse, comme par respect, après avoir fini son compliment, lui laissa tout le temps de répondre. Puis elle ajouta « J'ose espérer que votre Altesse Sérénissime daigne me pardonner l'incongruité de mon costume. » Mais, en parlant ainsi, ses yeux moqueurs brillaient d'un si vif éclat que le prince ne put le supporter. Il regarda au plafond, ce qui chez lui était le dernier signe du plus extrême embarras. « Comment ? Comment ? » dit-il encore. Puis il eut le bonheur de trouver une phrase. « Madame la duchesse, asseyez-vous donc !» Il avança lui-même un fauteuil, et avec assez de grâce. La duchesse ne fut point insensible à cette politesse. Elle modéra la pétulance de son regard. « Comment ? Comment ?» répéta encore le prince en s'agitant dans son fauteuil, sur lequel on eût dit qu'il ne pouvait trouver de position solide. « Je vais profiter de la fraîcheur de la nuit pour courir la poste, » reprit la duchesse. « Et comme mon absence peut être de quelque durée, je n'ai point voulu sortir des états de son Altesse Sérénissime sans la remercier de toutes les bontés que depuis 5 années elle a daigné avoir pour moi. » À ces mots, le prince comprit enfin. Il devint pâle. C'était l'homme du monde qui souffrait le plus de se voir trompé dans ses prévisions. Puis il prit un air de grandeur tout à fait digne du portrait de Louis XIV qui était sous ses yeux. « À la bonne heure, se dit la duchesse, voilà un homme. » « Et quel est le motif de ce départ subit ? » dit le prince d'un ton assez ferme. J'avais ce projet depuis longtemps, répondit la duchesse, et une petite insulte que l'on a faite à Monsignor del Dongo, que demain l'on va condamner à mort ou aux galères, me fait hâter mon départ. Et dans quelle ville allez-vous ?
À Naples, je pense.
Elle ajouta en se levant. Il ne me reste plus qu'à prendre congé de votre Altesse Sérénissime et à la remercier très humblement de ses anciennes bontés. À son tour, elle parlait d'un air si ferme que le prince vit bien que dans 2 secondes tout serait fini. L'éclat du départ ayant eu lieu, il savait que tout arrangement était impossible. Elle n'était pas femme à revenir sur ses démarches. Il courut après elle. « Mais vous savez bien, madame la duchesse, lui dit-il en lui prenant la main, que toujours je vous ai aimée, et d'une amitié à laquelle il ne tenait qu'à vous de donner un autre nom. Un meurtre a été commis, c'est ce qu'on ne saurait nier. J'ai confié l'instruction du procès à mes meilleurs juges. » À ces mots, la duchesse se releva de toute sa hauteur. Toute apparence de respect et même d'urbanité disparut en un clin d'œil. La femme outragée parut clairement, et la femme outragée s'adressant à un être qu'elle sait de mauvaise foi. Ce fut avec l'expression de la colère la plus vive et même du mépris qu'elle dit au prince en pesant sur tous les mots « Je quitte à jamais les états de votre Altesse Sérénissime pour ne jamais entendre parler du fiscal Rassi et des autres infâmes assassins qui ont condamné à mort mon neveu et tant d'autres. Si votre Altesse Sérénissime ne veut pas mêler un sentiment d'amertume aux derniers instants que je passe auprès d'un prince poli et spirituel, quand il n'est pas trompé, je la prie très humblement de ne pas me rappeler l'idée de ces juges infâmes qui se vendent pour 1000 écus ou une croix. » L'accent admirable et surtout vrai avec lequel furent prononcées ces paroles firent tressaillir le prince. Il craignit un instant de voir sa dignité compromise par une accusation encore plus directe. Mais au total, sa sensation finit bientôt par être de plaisir. Il admirait la duchesse. L'ensemble de sa personne atteignit en ce moment une beauté sublime. « Grand Dieu, qu'elle est belle !» se dit le prince. « On doit passer quelque chose à une femme unique et telle que peut-être il n'en existe pas une seconde dans toute l'Italie. Eh bien, avec un peu de bonne politique, il ne serait peut-être pas impossible d'en faire un jour ma maîtresse. Il y a loin d'un tel être à cette poupée de marquise Balbi, et qui encore chaque année vole au moins 300 000 francs à mes pauvres sujets. « Mais l'ai-je bien entendu ? » pensa-t-il tout à coup. Elle a dit « Condamner mon neveu et tant d'autres ?» Alors la colère surnagea, et ce fut avec une hauteur digne du rang suprême que le prince dit, après un silence. « Et que faudrait-il faire pour que madame ne partît point ?»« Quelque chose dont vous n'êtes pas capable, » répliqua la duchesse avec l'accent de l'ironie la plus amère et du mépris le moins déguisé. Le prince était hors de lui, mais il devait à l'habitude de son métier de souverain absolu la force de résister à un premier mouvement. « Il faut avoir cette femme, se dit-il, c'est ce que je me dois, puis il faut la faire mourir par le mépris. Si elle sort de ce cabinet, je ne la revois jamais. » Mais, ivre de colère et de haine comme il l'était en ce moment, où trouver un mot qui pût satisfaire à la fois à ce qu'il se devait à lui-même et porter la duchesse à ne pas déserter sa cour à l'instant. On ne peut, se dit-il, ni répéter ni tourner en ridicule un geste. Et il alla se placer entre la duchesse et la porte de son cabinet. Peu après, il entendit gratter à cette porte. « Quel est le Jean-Sucre ? » s'écria-t-il en jurant de toute la force de ses poumons. « Quel est le Jean-Sucre qui vient ici m'apporter sa sotte présence ?» Le pauvre général Fontana montra sa figure pâle et totalement renversée. Et ce fut avec l'air d'un homme à l'agonie qu'il prononça ces mots mal articulés. « Son Excellence le comte Mosca sollicite l'honneur d'être introduit. »«
Qu'il entre !» dit le prince en criant.
Et comme Mosca saluait,
« Eh bien, lui dit-il, voici Madame la Duchesse Sanseverina, qui prétend quitter Parme à l'instant pour aller s'établir à Naples, et qui, par-dessus le marché, me dit des impertinences.
« Comment ? » dit Mosca, pâlissant.
« Quoi ? Vous ne saviez pas ce projet de départ ?»«
Pas la première parole. J'ai quitté Madame à 6 heures, joyeuse et contente. »
Ce mot produisit sur le prince un effet incroyable. D'abord, il regarda Mosca. Sa pâleur croissante lui montra qu'il disait vrai et n'était point complice du coup de tête de la duchesse.
« En ce cas, se dit-il, je la perds pour toujours. Plaisir et vengeance, tout s'envole en même temps. À Naples, elle fera des épigrammes avec son neveu Fabrice sur la grande colère du petit prince de Parme. »
Il regarda la duchesse. Le plus violent mépris et la colère se disputaient son cœur. Ses yeux étaient fixés en ce moment sur le comte Mosca, et les contours si fins de cette belle bouche exprimaient le dédain le plus amer. Toute cette figure disait « Vil courtisan !» Ainsi, pensa le prince, après l'avoir examinée, je perds ce moyen de la rappeler en ce pays. Encore en ce moment, si elle sort de ce cabinet, elle est perdue pour moi. Dieu sait ce qu'elle dira de mes juges à Naples. Et avec cet esprit et cette force de persuasion divine que le ciel lui a donnée, elle se fera croire de tout le monde. Je lui devrai la réputation d'un tyran ridicule qui se lève la nuit pour regarder sous son lit. Alors, par une manœuvre adroite, et comme cherchant à se promener pour diminuer son agitation, le prince se plaça de nouveau devant la porte du cabinet. Le comte était à sa droite, à 3 pas de distance, pâle, défait et tellement tremblant qu'il fut obligé de chercher un appui sur le dos du fauteuil que la duchesse avait occupé au commencement de l'audience, et que le prince, dans un mouvement de colère, avait poussé au loin. Le comte était amoureux. « Si la duchesse part, je la suis, » se disait-il. « Mais voudra-t-elle de moi sa suite ? Voilà la question. » À la gauche du prince, la duchesse, debout, les bras croisés et serrés contre la poitrine, le regardait avec une impertinence admirable. Une pâleur complète et profonde avait succédé aux vives couleurs qui naguère animaient cette tête sublime. Le prince, au contraire des deux autres personnages, avait la figure rouge et l'air inquiet. Sa main gauche jouait d'une façon convulsive avec la croix attachée au grand cordon de son ordre qu'il portait sous l'habit. De la main droite, il se caressait le menton. « Que faut-il faire ?» dit-il au comte, sans trop savoir ce qu'il faisait lui-même et entraîné par l'habitude de le consulter sur tout. « Je n'en sais rien en vérité, Altesse Sérénissime, » répondit le comte de l'air d'un homme qui rend le dernier soupir. Il pouvait à peine prononcer les mots de sa réponse. Le ton de cette voix donna au prince la première consolation que son orgueil blessé eut trouvée dans cette audience. Et ce petit bonheur lui fournit une phrase heureuse pour son amour-propre. « Eh bien, dit-il, je suis le plus raisonnable des trois. Je veux bien faire abstraction complète de ma position dans le monde. Je vais parler comme un ami. » Et il ajouta, avec un beau sourire de condescendance bien imité des temps heureux de Louis XIV, « comme un ami parlant à des amis. » « Madame la Duchesse, ajouta-t-il, que faut-il faire pour vous faire oublier une résolution intempestive ?»«
En vérité, je n'en sais rien, répondit la Duchesse avec un grand soupir. En vérité, je n'en sais rien, tant j'ai Parme en horreur. »
Il n'y avait nulle intention d'épigramme dans ce mot. on voyait que la sincérité même parlait par sa bouche.
Le comte se tourna vivement de son côté. L'âme du courtisan était scandalisée. Puis il adressa au prince un regard suppliant. Avec beaucoup de dignité et de sang-froid, le prince laissa passer un moment. Puis, s'adressant au comte, « Je vois, dit-il, que votre charmante amie est tout à fait hors d'elle-même. C'est tout simple. Elle adore son neveu. » Et, se tournant vers la duchesse, il ajouta, avec le regard le plus galant et en même temps de l'air que l'on prend pour citer le mot d'une comédie, « Que faut-il faire pour plaire à ses beaux yeux ?» La duchesse avait eu le temps de réfléchir. D'un ton ferme et lent, et comme si elle eût dicté son ultimatum, elle répondit. Son Altesse m'écrirait une lettre gracieuse, comme elle sait si bien les faire. Elle me dirait que, n'étant point convaincue de la culpabilité de Fabrice Del Dongo, premier grand vicaire de l'archevêque, elle ne signera point la sentence quand on viendra la lui présenter, et que cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir.
Comment injuste ? S'écria le prince en rougissant jusqu'au blanc des yeux et reprenant sa colère.
Ce n'est pas tout, répliqua la duchesse avec une fierté romaine. Dès ce soir, et, ajouta-t-elle en regardant la pendule, il est déjà 11h15. Dès ce soir, son Altesse Sérénissime enverra dire à la marquise Raversi qu'elle lui conseille d'aller à la campagne pour se délasser des fatigues qu'a dû lui causer un certain procès dont elle parlait dans son salon au commencement de la soirée. Le duc se promenait dans son cabinet comme un homme furieux. « Vit-on jamais une telle femme ? » s'écriait-il. « Elle me manque de respect !»
La duchesse répondit avec une grâce parfaite.
« De la vie, je n'ai eu l'idée de manquer de respect à son Altesse Sérénissime. » Son Altesse a eu l'extrême condescendance de dire qu'elle parlait comme un ami à des amis. Je n'ai du reste aucune envie de rester à Parme, ajouta-t-elle en regardant le comte avec le dernier mépris. Ce regard décida le prince, jusqu'ici fort incertain, quoique ses paroles eussent semblé annoncer un engagement. Il se moquait fort des paroles. Il y eut encore quelques mots d'échangés. Mais enfin, le comte Mosca reçut l'ordre d'écrire le billet gracieux sollicité par la duchesse. Il omit la phrase « Cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir. »
« Il suffit, se dit le comte, que le prince promette de ne point signer la sentence qui lui sera présentée. » Le prince le remercia d'un coup d'œil en signant.
Le comte eut grand tort. Le prince était fatigué et eut tout signé. Il croyait se bien tirer de la scène et toute l'affaire était dominée à ses yeux par ces mots. « Si la duchesse part, je trouverai ma cour ennuyeuse avant 8 jours. » Le comte remarqua que le maître corrigeait la date et mettait celle du lendemain. Il regarda la pendule, elle marquait près de minuit. Le ministre ne vit dans cette date corrigée que l'envie pédantesque de faire preuve d'exactitude et de bon gouvernement. Quant à l'exil de la marquise Raversi, il ne fut pas un pli. Le prince avait un plaisir particulier à exiler les gens.
« Général Fontana ! » s'écria-t-il en entrouvant la porte.
Le général parut avec une figure tellement étonnée et tellement curieuse qu'il y eut échange d'un regard gai entre la duchesse et le comte, et ce regard fit la paix. « Général Fontana, dit le prince, vous allez monter dans ma voiture qui attend sous la colonnade. Vous irez chez la marquise Raversi, vous vous ferez annoncer. Si elle est au lit, vous ajouterez que vous venez de ma part. Et, arrivé dans sa chambre, vous direz ses précises paroles et non d'autres. « Madame la marquise Raversi, son Altesse Sérénissime vous engage à partir demain, avant 8h du matin, pour votre château de Velleja. Son Altesse vous fera connaître quand vous pourrez revenir à Parme. »
le prince chercha des yeux ceux de la duchesse, laquelle, sans le remercier comme il s'y attendait, lui fit une révérence extrêmement respectueuse et sortit rapidement. « Quelle femme !» dit le prince en se tournant vers le comte Mosca. Celui-ci, ravi de l'exil de la marquise Raversi, qui facilitait toutes ses actions comme ministre, parla pendant une grosse demi-heure en courtisant consommé. Il voulait consoler l'amour-propre du souverain et ne prit congé que lorsqu'il le vit bien convaincu que l'histoire anecdotique de Louis XIV n'avait pas de page plus belle que celle qu'il venait de fournir à ses historiens futurs. En rentrant chez elle, la duchesse ferma sa porte et dit qu'on n'admit personne, pas même le comte. Elle voulait se trouver seule avec elle-même et voir un peu quelle idée elle devait se former de la scène qui venait d'avoir lieu. Elle avait agi au hasard et pour se faire plaisir au moment même. Mais à quelque démarche qu'elle se fût laissée entraîner, elle y eut tenu avec fermeté. Elle ne se fut point blâmée en revenant au sang-froid, encore moins repentie. Tel était le caractère auquel elle devait d'être encore à 36 ans, la plus jolie femme de la cour. Elle rêvait en ce moment à ce que Parme pouvait offrir d'agréable, comme elle eût fait au retour d'un long voyage, tant de 9 heures à 11 heures elle avait cru fermement quitter ce pays pour toujours. Ce pauvre comte a fait une plaisante figure lorsqu'il a connu mon départ en présence du prince. Au fait, c'est un homme aimable et d'un cœur bien rare. Il eût quitté ses ministères pour me suivre. Mais aussi, pendant 5 années entières, il n'a pas eu une distraction à me reprocher. Quelle femme mariée à l'hôtel pourrait en dire autant à leur seigneur et maître? Il faut convenir qu'il n'est point important. Point pédant. Il ne donne nullement l'envie de le tromper. Devant moi, il semble toujours avoir honte de sa puissance. Il faisait une drôle de figure en présence de son seigneur et maître. S'il était là, je l'embrasserais. Mais pour rien au monde, je ne me chargerais d'amuser un ministre qui a perdu son portefeuille. C'est une maladie dont on ne guérit qu'à la mort et qui fait mourir. Quel malheur ce serait d'être ministre jeune. Il faut que je le lui écrive. C'est une de ces choses qu'il doit savoir officiellement avant de se brouiller avec son prince. Mais j'oubliais mes bons domestiques. La duchesse sonna. Ses femmes étaient toujours occupées à faire des malles. La voiture était avancée sous le portique et on la chargeait. Tous les domestiques qui n'avaient pas de travail à faire entouraient cette voiture, les larmes aux yeux. La Tchéquina, qui, dans les grandes occasions, entrait seule chez la duchesse, lui apprit tous ces détails. « Faites-les monter !» dit la duchesse. Un instant après, elle passa dans la salle d'attente. « On m'a promis, leur dit-elle, que la sentence contre mon neveu ne serait pas signée par le souverain. » C'est ainsi qu'on parle en Italie. « Je suspends mon départ. » Nous verrons si mes ennemis auront le crédit de faire changer cette résolution. » Après un petit silence, les domestiques se mirent à crier « Vive Madame la Duchesse !» et applaudirent avec fureur. La Duchesse, qui était déjà dans la pièce voisine, reparut comme une actrice applaudie, fit une petite révérence pleine de grâce à ces gens et leur dit « Mes amis, je vous remercie. » Si elle eût dit un mot, tous, en ce moment, eussent marché contre le palais pour l'attaquer. Elle fit un signe à un postillon, ancien contrebandier et homme dévoué, qui la suivit. « Tu vas t'habiller en paysan aisé. Tu sortiras de Parme comme tu pourras. Tu loueras une cédiole et tu iras aussi vite que possible à Bologne. Tu entreras à Bologne en promeneur et par la porte de Florence. » Et tu remettras à Fabrice, qui est au Pellegrino, un paquet que Cecchina va te donner. Fabrice se cache et s'appelle là-bas Monsieur Joseph Bossi. Ne va pas le trahir par étourderie, n'aie pas l'air de le connaître. Mes ennemis mettront peut-être des espions à tes trousses.
Fabrice te renverra ici au bout de quelques heures ou de quelques jours.
C'est surtout en revenant qu'il faut redoubler de précautions pour ne pas le trahir.
Ah, les gens de la marquise Raversi, s'écria le postillon. Nous les attendons, et si madame voulait, ils seraient bientôt exterminés.
Un jour, peut-être, mais gardez-vous sur votre tête de ne rien faire sans mon ordre.
C'était la copie du billet du prince que la duchesse voulait envoyer à Fabrice. Elle ne put résister au plaisir de l'amuser et ajouta un mot sur la scène qui avait amené le billet. Ce mot devint une lettre de 10 pages. Elle fit rappeler le postillon. « Tu ne peux partir, lui dit-elle, qu'à 4 heures, porte ouvrante.
Je comptais passer par le grand égout. J'aurai de l'eau jusqu'au menton, mais je passerai. »
« Non, dit la duchesse, je ne veux pas exposer à prendre la fièvre un de mes plus fidèles serviteurs. Connais-tu quelqu'un chez monseigneur l'archevêque ?»«
Le second cocher est mon ami. »
Voici une lettre pour ce saint prélat. Introduis-toi sans bruit dans son palais, fais-toi conduire chez le valet de chambre. Je ne voudrais pas qu'on réveillât monseigneur. S'il est déjà renfermé dans sa chambre, passe la nuit dans le palais, et, comme il est dans l'usage de se lever avant le jour, demain matin à 4 heures, fais-toi annoncer de ma part. Demande sa bénédiction au saint archevêque, remets-lui le paquet que voici, et prends les lettres qu'il te donnera peut-être pour Bologne. » La duchesse adressait à l'archevêque l'original même du billet du prince. Comme ce billet était relatif à son premier grand vicaire, elle priait de le déposer aux archives de l'archevêché, où elle espérait que messieurs les grands vicaires et les chanoines, collègues de son neveu, voudraient bien en prendre connaissance. Le tout sous la condition du plus profond secret. La duchesse écrivait à monseigneur Landriani avec une familiarité qui devait charmer ce bon bourgeois. La signature seule avait 3 lignes. La lettre, fort amicale, était suivie de ces mots « Angelina Cornelia Isola Valsera del Dongo, Duchesse Sanseverina ».
« Je n'en ai pas tant écrit, je pense, » se dit la duchesse en riant, « depuis mon contrat de mariage avec le pauvre duc.
Mais on ne mène ces gens-là que par ces choses, et aux yeux des bourgeois, la caricature fait beauté. » Elle ne put pas finir la soirée sans céder à la tentation d'écrire une lettre de persiflage au pauvre comte. Elle lui annonçait officiellement, « pour sa gouverne, disait-elle, dans ses rapports avec les têtes couronnées, qu'elle ne se sentait pas capable d'amuser un ministre disgracié.
Le prince vous fait peur. Quand vous ne pourrez plus le voir, ce serait donc à moi à vous faire peur. »
Elle fit porter sur le champ cette lettre. De son côté, le lendemain dès 7 heures du matin, le prince manda le comte Zurla, ministre de l'Intérieur. « De nouveau, lui dit-il, donnez les ordres les plus sévères à tous les podestats pour qu'ils fassent arrêter le sieur Fabrice del Dongo. On nous annonce que peut-être il osera reparaître dans nos états. Ce fugitif se trouvant à Bologne, où il semble braver les poursuites de nos tribunaux, placez des sbires qui le connaissent personnellement. Premièrement, dans les villages sur la route de Bologne à Parme. Deuxièmement, aux environs du château de la duchesse Sanseverina, à Sacca, et de sa maison de Castelnuovo. Troisièmement, autour du château du comte Mosca. J'ose espérer de votre haute sagesse, monsieur le comte, que vous saurez dérober la connaissance de ces ordres de votre souverain à la pénétration du comte Mosca. Sachez que je veux que l'on arrête le sieur Fabrice del Dongo.
Dès que ce ministre fut sorti, une porte secrète introduisit chez le prince le fiscal général Rassi, qui s'avança pliant en deux et saluant à chaque pas. La mine de ce coquin-là était à peindre. Elle rendait justice à toute l'infamie de son rôle. Et, tandis que les mouvements rapides et désordonnés de ses yeux trahissaient la connaissance qu'il avait de ses mérites, l'assurance arrogante et grimaçante de sa bouche montrait qu'il savait lutter contre le mépris. Comme ce personnage va prendre une assez grande influence sur la destinée de Fabrice, on peut en dire un mot. Il était grand, il avait de beaux yeux, fort intelligent, mais un visage abîmé par la petite vérole. Pour de l'esprit, il en avait, et beaucoup, et du plus fin. On lui accordait de posséder parfaitement la science du droit, mais c'était surtout par l'esprit de ressource qu'il brillait. De quelque sens que pût se présenter une affaire, il trouvait facilement, et en peu d'instants, les moyens fort bien fondés en droit d'arriver à une condamnation ou à un acquittement. Il était surtout le roi des finesses de procureur. À cet homme, que de grandes monarchies eussent envié au prince de Parme, on ne connaissait qu'une passion. Être en conversation intime avec de grands personnages et leur plaire par des bouffonneries. Peu lui importait que l'homme puissant rit de ce qu'il disait ou de sa propre personne ou fit des plaisanteries révoltantes sur Madame Rassi. Pourvu qu'il vît rire et qu'on le traitât avec familiarité, il était content. Quelquefois, le prince, ne sachant plus comment abuser de la dignité de ce grand juge, lui donnait des coups de pied. Si les coups de pied lui faisaient mal, il se mettait à pleurer. Mais l'instinct de bouffonnerie était si puissant chez lui qu'on le voyait tous les jours préférer le salon d'un ministre qui le bafouait à son propre salon où il régnait despotiquement sur toutes les robes noires du pays. Le Rassi s'était surtout fait une position à part, en ce qu'il était impossible au noble le plus insolent de pouvoir l'humilier. Sa façon de se venger des injures qu'il essuyait toute la journée était de les raconter au prince, auquel il s'était acquis le privilège de tout dire. Il est vrai que souvent la réponse était un soufflet bien appliqué et qui faisait mal, mais il ne s'en formalisait aucunement. La présence de ce grand juge distrayait le prince dans ses moments de mauvaise humeur. Alors, il s'amusait à l'outrager. On voit que Rassi était à peu près l'homme parfait à la cour, sans honneur et sans humeur. « Il faut du secret avant tout !» lui cria le prince sans le saluer, et le traitant tout à fait comme un cuistre, lui qui était si poli avec tout le monde. « De quand votre sentence est-elle datée ?»« Altesse sérénissime, d'hier matin. »« De combien de juges est-elle signée ?»« De tous les cinq. » »« Et la peine ?»« 20 ans de forteresse, comme votre Altesse sérénissime me l'avait dit. » »« La peine de mort eût révolté, » dit le prince comme se parlant à soi-même. « C'est dommage. Quel effet sur cette femme ?» Mais c'est un Del Dongo, et ce nom est révéré dans Parme, à cause des 3 archevêques presque successifs. Vous me dites 20 ans de forteresse ? Oui, Altesse Sérénissime, reprit le fiscal Rassi, toujours debout et plié en deux, avec, au préalable, excuse publique devant le portrait de son Altesse Sérénissime. De plus, jeûne au pain et à l'eau tous les vendredis et toutes les veilles de fête principales, le sujet étant d'une impiété notoire. Ceci pour l'avenir et pour casser le cou à sa fortune. « Écrivez, » dit le prince. Son Altesse Sérénissime, ayant daigné écouter avec bonté les très humbles supplications de la marquise Del Dongo, mère du coupable, et de la duchesse Sanseverina, sa tante, lesquelles ont représenté qu'à l'époque du crime, leurs fils et neveux étaient fort jeunes, et d'ailleurs égarés par une folle passion conçue pour la femme du malheureux Giletti, a bien voulu, malgré l'horreur inspirée par un tel meurtre, commuer la peine à laquelle Fabrice Del Dongo a été condamné en celle de 12 années de forteresse. « Donnez que je signe. » le prince signa et data de la veille. Puis, rendant la sentence à Rassi, il lui dit « Écrivez immédiatement au-dessous de ma signature. » La duchesse Sanseverina s'étant de rechef jetée aux genoux de son Altesse, le prince a permis que tous les jeudis, le coupable ait une heure de promenade sur la plateforme de la Tour Carrée, vulgairement appelée Tour Farnèse. « Signez cela, dit le prince, et surtout bouche close, quoi que vous puissiez entendre annoncé par la ville. Vous direz au conseiller de Capitani, qui a voté pour 2 ans de forteresse et qui a même péroré en faveur de cette opinion ridicule, que je l'engage à relire les lois et règlements. De rechef, silence et bonsoir. » Le fiscal Rassi fit, avec beaucoup de lenteur, 3 profondes révérences que le prince ne regarda pas. Ceci se passait à 7 heures du matin. Quelques heures plus tard, la nouvelle de l'exil de la marquise Raversi se répandait dans la ville et dans les cafés. Tout le monde parlait à la fois de ce grand événement. L'exil de la marquise chassa pour quelque temps de Parme cet implacable ennemi des petites villes et des petites cours, l'ennui. Le général Fabio Conti, qui s'était cru ministre, prétexta une attaque de goutte et pendant plusieurs jours ne sortit point de sa forteresse. La bourgeoisie et par suite le petit peuple conclurent de ce qui se passait qu'il était clair que le prince avait résolu de donner l'archevêché de Parme à Monseigneur del Dongo. Les fins politiques de café allèrent même jusqu'à prétendre qu'on avait engagé le père Landriani, l'archevêque actuel, à feindre une maladie et à présenter sa démission. On lui accorderait une grosse pension sur la ferme du tabac, ils en étaient sûrs. Ce bruit vint jusqu'à l'archevêque, qui s'en alarma fort, et pendant quelques jours, son zèle pour notre héros en fut grandement paralysé. 2 mois après, cette belle nouvelle se trouvait dans les journaux de Paris, avec ce petit changement que c'était le comte de Mosca, neveu de la duchesse de Sanseverina, qui allait être fait archevêque. La marquise Raversi était furibonde dans son château de Velleja. Ce n'était point une femmelette, de celles qui croient se venger en lançant des propos outrageants contre leurs ennemis. Dès le lendemain de sa disgrâce, le chevalier Riscara et 3 autres de ses amis se présentèrent au prince par son ordre et lui demandèrent la permission d'aller la voir à son château. L'Altesse reçut ces messieurs avec une grâce parfaite et leur arrivée à Velleja fut une grande consolation pour la marquise. Avant la fin de la 2e semaine, elle avait 30 personnes dans son château, tous ceux que le ministère libéral devait porter aux places. Chaque soir, la marquise tenait un conseil régulier avec les mieux informés de ses amis. Un jour qu'elle avait reçu beaucoup de lettres de Parme et de Bologne, elle se retira de bonne heure. La femme de chambre favorite introduisit d'abord l'amant régnant, le comte Baldi, jeune homme d'une admirable figure et fort insignifiant. Et plus tard, le chevalier Riscara, son prédécesseur. Celui-ci était un petit homme noir au physique et au moral, qui, ayant commencé par être répétiteur de géométrie au collège des nobles à Parme, se voyait maintenant conseiller d'État et chevalier de plusieurs ordres. « J'ai la bonne habitude, dit la marquise à ces 2 hommes, de ne détruire jamais aucun papier, et bien m'en prend. Voici 9 lettres que la Sanseverina m'a écrites en différentes occasions. Vous allez partir tous les 2 pour Gênes. Vous chercherez parmi les galériens un ex-notaire nommé Buratti, comme le grand poète de Venise, ou Duratti. Vous, comte Baldi, placez-vous à mon bureau et écrivez ce que je vais vous dicter. » Une idée me vient et je t'écris ce mot. Je vais à ma chaumière près de Castelnuovo. Si tu veux venir passer 12 heures avec moi, je serai bien heureuse. Il n'y a, ce me semble, pas grand danger après ce qui vient de se passer. Les nuages s'éclaircissent. Cependant, arrête-toi avant d'entrer dans Castelnuovo. Tu trouveras sur la route un de mes gens. Ils t'aiment tous à la folie. Tu garderas, bien entendu, le nom de Bossi pour ce petit voyage. On dit que tu as de la barbe comme le plus admirable capucin, et l'on ne t'a vu à Parme qu'avec la figure décente d'un grand vicaire. Comprends-tu, Riscara ? Parfaitement. Mais le voyage à Gênes est un luxe inutile. Je connais un homme dans Parme qui, à la vérité, n'est pas encore aux galères, mais qui ne peut manquer d'y arriver. Il contrefera admirablement l'écriture de la Sanseverina. À ces mots, le comte Baldi ouvrit démesurément ses yeux si beaux. Il comprenait seulement. Si tu connais ce digne personnage de Parme, pour lequel tu espères de l'avancement, dit la marquise à Riscara. Apparemment qu'il te connaît aussi. Sa maîtresse, son confesseur, son ami peuvent être vendus à la Sanseverina. J'aime mieux différer cette petite plaisanterie de quelques jours et ne m'exposer à aucun hasard. Partez dans 2 heures, comme 2 bons petits agneaux. Ne voyez âme qui vive à Gênes et revenez bien vite. Le chevalier Riscara s'enfuit en riant et parlant du nez comme Polichinelle. « Il faut préparer les paquets, » disait-il en courant d'une façon burlesque. Il voulait laisser Baldi seul avec la dame. 5 jours après, Riscara ramena à la marquise son comte Baldi, tout écorché. Pour abréger de 6 lieues, on lui avait fait passer une montagne à dos de mulet. Il jurait qu'on ne le reprendrait plus à faire de grands voyages. Baldi remit à la marquise 3 exemplaires de la lettre qu'elle lui avait dictée et 5 ou 6 autres lettres de la même écriture, composées par Riscara, et dont on pourrait peut-être tirer parti par la suite. L'une de ces lettres contenait de fort jolies plaisanteries sur les peurs que le prince avait la nuit et sur la déplorable maigreur de la marquise Baldi, sa maîtresse, laquelle laissait, dit-on, la marque d'une pincette sur le coussin des bergères après s'y être assise un instant. On eût juré que toutes ces lettres étaient écrites de la main de Madame Sanseverina. « Maintenant je sais, à n'en pas douter, dit la marquise, que l'ami du cœur, que le Fabrice est à Bologne ou dans les environs. « Je suis trop malade, s'écria le comte Baldi en l'interrompant. Je demande en grâce d'être dispensé de ce second voyage, ou du moins je voudrais obtenir quelques jours de repos pour remettre ma santé. Je vais plaider votre cause, dit Riscara. Il se leva et parla bas à la marquise. Eh bien, soit, j'y consens, répondit-elle en souriant. Rassurez-vous, vous ne partirez point, dit la marquise à Baldi d'un air assez dédaigneux. « Merci !» s'écria celui-ci avec l'accent du cœur. En effet, Riscara monta seul en chaise de poste. Il était à peine à Bologne depuis 2 jours lorsqu'il aperçut dans une calèche Fabrice et la petite Marietta. « Diable ! » se dit-il. « Il paraît que notre futur archevêque ne se gêne point. Il faudra faire connaître ceci à la duchesse, qui en sera charmée. » Riscara n'eut que la peine de suivre Fabrice pour savoir son logement. Le lendemain matin, celui-ci reçut par un courrier la lettre de fabrique génoise. Il la trouva un peu courte, mais du reste n'eut aucun soupçon. L'idée de revoir la duchesse et le comte le rendit fou de bonheur. Et quoi que pût dire Ludovic, il prit un cheval à la poste et partit au galop. Sans s'en douter, il était suivi à peu de distance par le chevalier Riscara, qui, en arrivant à 6 lieues de Parme, à la poste avant Castelnuovo, eut le plaisir de voir un grand attroupement dans la place devant la prison du lieu. On venait d'y conduire notre héros, reconnu à la poste comme il changeait de cheval, par 2 sbires choisis et envoyés par le comte Zurla. les petits yeux du chevalier Riscara brillèrent de joie. Il vérifia, avec une patience exemplaire, tout ce qui venait d'arriver dans ce petit village, puis expédia un courrier à la marquise Raversi. Après quoi, courant les rues comme pour voir l'église fort curieuse, et ensuite pour chercher un tableau du parmesan qu'on lui avait dit exister dans le pays, il rencontra enfin le podestat, qui s'empressa de rendre ses hommages à un conseiller d'État. Riscara eut l'air étonné qu'il n'eût pas envoyé sur le champ, à la citadelle de Parme, le conspirateur qu'il avait eu le bonheur de faire arrêter. « On pourrait craindre, ajouta Riscara d'un air froid, que ses nombreux amis qui le cherchaient avant-hier pour favoriser son passage à travers les états de son Altesse Sérénissime ne rencontrent les gendarmes. Ces rebelles étaient bien 12 ou 15 à cheval. « Intelligenti pauca !» s'écria le podestat d'un air malin.